Fred Robart, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes descendu vous-même sur le terrain pour voir comment les groupes armés fonctionnent et comment ils se financent?
Oui, c'est ça le premier pas. Et puis, si on peut obtenir les documents qui font preuve supplémentaire, c'est bien. Et sinon, on essaye d'interviewer les témoins assez crédibles et que nous jugeons fiables. Mais un seul témoin ne suffit pas. Il faut au moins 3 témoins indépendants qui conforment l'un à l'autre.
Alors, vous dites dans ce rapport que les troupes ex-SNDP se font financer par l'exploitation minière en utilisant notamment des citoyens. Est-ce que c'est vrai? Vous avez vérifié ça?
Oui, ce n'est pas exclusivement les ex-SNDP. Il y a autres aussi qui s'impliquent dans ces activités.
Mais qui?
Bon, on a nommé certains individuels dans le rapport, mais je dis simplement que ce n'est pas exclusivement un groupe. C'est vrai quand même que certains ex-rebelles qui sont récemment intégrés dans l'armée agissent comme s'il y a une impunité. On les a cités. C'est vrai que leur implication est diverse. Ça peut être simplement le financement des activités de commerce, ou bien ça peut arriver jusqu'aux travaux forcés, même au pillage s'il y a l'opportunité. Mais en tout cas, chaque activité économique comme ça dans l'exploitation des minerais est interdite pour les membres des forces armées.
Mais vous dites aussi dans le rapport que les militaires de l'armée nationale placent souvent leurs intérêts économiques au-dessus de leur devoir de protection des civils. Une affirmation fracassante pour l'armée congolaise.
Bon, c'est grave, mais il faut souligner que nous avons pris beaucoup de cautions et nous n'avons pas ciblé ou parlé de l'institution en total. L'armée nationale reste une institution avec une mission très importante. Nous avons regretté simplement que les individuels ou bien les réseaux criminels dedans l'institution ont ces tendances qui, pour nous, représentent un conflit d'intérêts avec leur mission constitutionnelle de protéger les civils et leurs biens ou bien de poursuivre les coupes armées.
Est-ce que les noms des individus sont donnés aux autorités congolaises?
Oui, et nous avons aussi la mesure d'informer les autorités compétentes aussi longues de notre mandat. Dans le processus de recherche, nous avons eu des échanges fructueux avec les autorités, soit au niveau provincial, soit au niveau national. Donc, nous espérons qu'il n'y a pas trop de surprises pour les autorités dans notre rapport.
Alors, s'il y a des individus qui confondent leur mission de protection avec leurs intérêts économiques, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement?
Bon, nous n'avons pas un statut juridique, donc je crois que c'est pour les autorités d'enquêter s'ils estiment qu'il y a quelque chose à enquêter. Je crois que l'auditorat militaire, surtout, va faire ses devoirs. Et finalement, si quelqu'un est jugé coupable des crimes, ça c'est pour la loi congolaise de procéder au jugement.
Est-ce que le fait que les autorités congolaises ont pris cette mesure d'interdire l'exploitation artisanale à l'est de la RDC, c'est salutaire?
Bon, ce n'est pas pour nous à juger les décisions prises par les autorités de l'État. Nous sommes d'accord avec eux dans leur analyse du problème. Ils ont reconnu qu'il y a un problème épineux et que ça implique beaucoup des réseaux assez élargis. Je crois que c'est déjà bien établi que le commerce des minerais et les autres ressources naturelles n'est pas limité au territoire national. Il y a des acheteurs internationaux et il y a tout un processus pour que ces minerais arrivent à leur destination, même aux grandes sociétés électroniques pour servir des ingrédients dans les téléphones mobiles ou les ordinateurs, ainsi de suite.
Est-ce que ce n'est pas ces sociétés, les multinationales par exemple, ou pays qui les contrôlent, qu'on devrait interpeller?
Bon, nous disons qu'ils ont certaines responsabilités. Nous voulons non plus suggérer qu'ils cessent d'acheter du Congo, parce qu'un embargo peuvent aussi créer des problèmes graves pour l'économie. Mais nous disons que les grands acheteurs comme ça, ou bien les petits, ont une obligation de demander certaines questions de leurs fournisseurs. D'où viennent les minerais? De quel site? Quelle est la chaîne des transactions? Qui a profité de ça? Pour éliminer les possibilités ou le risque qu'un groupe armé, par exemple, pourra profiter à une certaine étape par l'imposition des impôts, soi-disant une barrière ici ou un pillage là, pour éviter que ces multinationales arrivent à contribuer aux finances d'un groupe armé.
Fred Roberts, je vous remercie.
Merci beaucoup.